deux galants. Le soir d'août, gris et chaud, était descendu sur la ville, et un air doux, tiède comme un souvenir d'été, circulait dans les rues. Les rues, dont les boutiques étaient fermées pour le repos dominical, grouillaient d'une foule joyeusement colorée. Les lampes brillaient comme des perles illuminées, au sommet des grands réverbères, au-dessus de la texture vivante de la rue, qui, dans sa métamorphose perpétuelle de formes et de couleurs, emplissait l'air de ce soir gris et chaud d'un murmure incessant. Deux jeunes gens descendaient la colline de Rutland Square. L'un d'entre eux était en train d'achever un long monologue. L'autre, qui marchait sur le bord du trottoir et était de loin en loin obligé de descendre sur la chaussée à cause de l'impolitesse de son camarade, l'écoutait d'un air amusé. Il était ramassé et rougeau. Une casquette de yachting était enfoncée très à l'arrière de son front, et l'histoire qu'il était en train d'écouter déclenchait sans cesse des vagues d'expressions qui déferlaient sur son visage depuis les coins de son nez, de ses yeux et de sa bouche. Son corps était secoué par une cascade de petits rires sifflants. Ses yeux, pétillants, exprimaient un vif amusement et se portaient sans cesse vers le visage de son compagnon. Une fois ou deux, il réarrangea l'imperméable léger qu'il avait jeté sur une épaule à la manière d'un toréador. Ses culottes, ses chaussures de caoutchouc blanches et son imperméable jeté avec désinvolture exprimaient la jeunesse. Mais sa silhouette était empâtée à la taille, ses cheveux étaient rares et son visage, lorsque les vagues d'expression refluaient, était ravagé. Lorsqu'il fut bien sûr que l'histoire était terminée, il rit silencieusement pendant 30 secondes, puis il dit « Eh bien, c'est du propre !» Sa voix semblait manquer de vigueur, et pour enfoncer le clou, il ajouta avec humour « C'est même, si je puis me permettre, du très propre, de l'impeccable, de l'étincelant !» Il redevint sérieux et silencieux quand il eut dit ces mots. Sa langue était fatiguée, car il avait parlé tout l'après-midi dans un pub de Dorset Street. La plupart des gens tenaient Lenehan pour une sangsue, mais en dépit de cette réputation, son adresse et son éloquence avaient toujours retenu ses amis de prendre des mesures contre lui. Il avait une manière courageuse de se présenter à une fête qu'il donnait dans un bar et de se tenir habilement aux abords de leur groupe jusqu'à ce qu'on finisse par l'inclure pour une tournée. Il était un vagabond sportif, armé d'un stock inépuisable d'histoires, de petits poèmes et de devinettes. Il ne s'offusquait d'aucun manque de courtoisie. Personne ne savait comment il gagnait sa misérable vie, mais son nom était vaguement associé à des paris équestres. « Et où l'as-tu ramassé, Corley ? » demanda-t-il. Corley se passa la langue d'un coup rapide sur la lèvre supérieure. « Une nuit, vieux, » dit-il, « je descendais Dame Street et j'ai reluqué une belle poule sous l'horloge de Waterhouse, et j'ai dit « bonne nuit, tu vois ». Alors on a marché un peu au bord du canal et elle m'a dit qu'elle était boniche dans une maison de Bagot Street. J'ai mis mon bras autour d'elle et je l'ai serré un peu cette nuit-là. Et puis le dimanche d'après, vieux, je lui ai donné rendez-vous. On a été à Donnybrook et je l'ai emmené dans un champ là-bas. Elle m'a dit qu'elle le connaissait, qu'elle avait l'habitude d'y aller avec un laitier. C'était bien, vieux. Elle m'apportait des cigarettes tous les soirs et elle payait le tram aller-retour. Et une nuit, elle m'a aussi apporté 2 cigares fins. « Des vrais, affinés, tu sais, comme ceux que mon vieux avait l'habitude de fumer. J'avais peur, vieux, qu'elle tombe en cloque, mais elle est forte pour l'éviter. »« Peut-être qu'elle croit que tu vas l'épouser, » dit Lenehan. « Je lui ai dit que j'avais pas de boulot en ce moment, » dit Corley. « Je lui ai dit que j'avais l'habitude de bosser à l'usine Pym. Elle ne sait même pas mon nom. J'ai été assez malin pour ne pas le lui dire. Mais elle me trouve de la classe, tu sais. » Lenehan rit encore silencieusement. « De toutes les bonnes histoires que j'ai pu entendre, dit-il, c'est vraiment la plus propre. » La foulée de Corley marqua le compliment. Le balancement de son corps charpenté forçait son ami à exécuter quelques petits pas de côté, du trottoir sur la chaussée et inversement. Corley était le fils d'un inspecteur de police, et il avait hérité de son père à la fois la charpente et les tripes. Il marchait, les mains le long du corps, le dos droit, en balançant sa tête d'un côté et de l'autre. C'était une tête large, sphérique et huileuse. Elle transpirait par tous les temps, et son large chapeau rond, toujours mis de côté, ressemblait à un bulbe qui serait poussé d'un autre bulbe. Il regardait toujours droit devant lui, comme s'il était à la parade, et quand il voulait suivre quelqu'un des yeux dans la rue, il lui fallait bouger son corps à partir des hanches. En ce moment, il était sans emploi. Quand un boulot se libérait, un ami était toujours prêt à lui passer le mot. On le voyait souvent marcher à côté de policiers en civil, avec lesquels il était en grande conversation. Il connaissait le fin mot de toutes les affaires et se plaisait à prononcer des sentences définitives. Il parlait sans écouter ce que ses compagnons avaient à dire. Sa conversation tournait toujours autour de lui, de ce qu'il avait dit à telle personne, de ce que telle personne lui avait dit et de ce qu'il avait répondu pour clore le sujet. Quand il rapportait ses dialogues, il aspirait la première lettre de son nom pour imiter l'accent florentin. L'aînée Anne offrit une cigarette à son ami. Tandis que les deux jeunes gens continuaient à marcher à travers la foule, Corley se retournait parfois pour sourire à l'une des filles qui passait. Mais le regard de l'aînée Anne, lui, était fixé sur la large lune pâle que cerclait un double halo. Il scrutait la façon dont les fils du crépuscule recouvraient progressivement son disque. À la fin, il dit « Eh bien, dis-moi, Corley, tu vas sans doute régler ça, non ?» Corley, très expressif, cligna de l'œil en guise de réponse. « Elle est partante pour ça ?» demanda l'aînée Anne dubitatif. « On ne sait jamais avec les femmes. »« Ça va aller, » dit Corley. « Je sais comment m'y prendre pour la persuader, vieux. Elle est folle de moi. »« Tu es ce qu'on pourrait appeler un vrai lotario, » dit l'aînée Anne. « Et un lotario de première classe. » Une ombre de moquerie atténuait la servilité de ses manières. Pour se sauver lui-même, il avait pris l'habitude de laisser planer sur ses flatteries une ambiguïté, de sorte qu'on pouvait les prendre pour de la raillerie. Mais Corley n'était pas du genre subtil. « C'est tellement facile de toucher une boniche, » affirma-t-il. « Garde ce tuyau en mémoire. »« Un tuyau de quelqu'un qui les a toutes essayées, » dit l'aînée Anne. « Au début, j'allais avec des filles, tu vois, » dit Corley d'un ton confidentiel. « Des filles de South Circular. J'avais l'habitude de les emmener dehors, vieux. Je leur payais le tram et je les emmenais à un concert ou à une pièce au théâtre et je leur achetais du chocolat et des bonbons et des trucs du genre. Je dépensais pas mal d'argent pour elles, » ajouta-t-il avec conviction, comme s'il avait le sentiment qu'on ne le croyait pas. Mais l'aînée Anne le croyait volontiers. Il hochait la tête gravement. « Je connais ce jeu-là, » dit-il, « et c'est un jeu de dupes. »« Et je n'en ai jamais rien retiré, » dit Corley. « Et moi donc, » dit l'aînée Anne. « Sauf avec l'une d'entre elles, » dit Corley. Il s'humecta la lèvre supérieure avec la langue. La réminiscence faisait briller ses yeux. Lui aussi se mit à regarder le disque pâle de la lune, maintenant presque entièrement voilé, et parut méditer. « Elle était plutôt pas mal, » dit-il avec regret. Il resta à nouveau silencieux, puis il ajouta. « Elle fait le tapin maintenant. Je l'ai vue un soir descendre Earl Street en voiture avec deux types. » « Je suppose que c'est à cause de toi, » dit l'aînée Anne. « Oh, il y en a eu d'autres avant moi, » dit Corley d'un air philosophe. Cette fois, l'aînée Anne avait du mal à le croire. Il secoua la tête et sourit. « Tu sais que tu ne peux pas me la faire à moi, Corley, » dit-il. « Je jure devant Dieu, » dit Corley. « Elle me l'a dit elle-même. »« Espèce de balance, » dit-il. Comme il dépassait les rails de Trinity College, l'aînée Anne alla sur la chaussée et regarda l'horloge. « Il est 20, » dit-il. « On a le temps, » dit Corley. « Elle sera toujours là. Je la laisse toujours poireauter un peu. » L'aînée Anne rit silencieusement. « Bon Dieu, tu sais vraiment y faire avec les filles, » dit-il. « Je connais toutes leurs ficelles, » confessa Corley. « Mais dis-moi, » dit l'aînée Anne à nouveau, « tu es sûr que tu peux la persuader ? C'est un peu délicat comme affaire. Elles sont sacrément pointilleuses sur cette question, hein ? Alors ?» Ses petits yeux brillants cherchèrent le visage de son compagnon, pour trouver un peu d'assurance. Corley balança sa tête de droite et à gauche comme pour chasser un insecte insistant et il fronça les sourcils. « Ça va le faire, » dit-il. « Fais-moi confiance, tu veux ?» L'aînée Anne n'ajouta rien. Il ne voulait pas froisser son ami, être envoyé au diable et entendre qu'on n'avait pas besoin de son avis. Un peu de tact était nécessaire. Mais le sourcil de Corley se détendit bientôt. Ses pensées couraient dans une autre direction. « C'est une gentille fille, » dit-il d'un ton appréciateur. « Oui, une gentille fille. » Ils marchèrent le long de Nassau Street, puis tournèrent à l'angle de Kildare Street. Près de l'entrée du club, un harpiste se tenait sur la route et jouait pour un petit cercle d'auditeurs. Il pinçait les cordes négligemment, lançant de rapides coups d'œil de loin en loin sur les visages des nouveaux venus, et parfois aussi l'air épuisé vers le ciel. Sa harpe aussi, indifférente au fait que sa housse lui tombait sur les genoux, paraissait fatiguée du regard des étrangers comme des mains de son maître. L'une des mains jouait dans les basses la mélodie de Silent O'Moyle, tandis que l'autre courait dans les aigus après chaque accord. Les notes de la mélodie sonnaient pleines et profondes. Les deux jeunes gens remontèrent la rue sans parler, suivis par la musique mélancolique. Quand ils atteignirent Stephen's Green, ils traversèrent. Là, le bruit des trams, les lumières et la foule les délivrèrent de leur silence. « La voilà !» dit Corley. Au coin de Hume Street attendait une jeune femme. Elle portait une robe bleue et un béret de marin blanc. Elle se tenait sur le bord du trottoir et de sa main balançait une ombrelle. Lenehan s'anima. « Allons la regarder un peu, Corley, » dit-il. Corley jeta sur son ami un œil latéral et un sourire désagréable apparut sur son visage. « T'essaierais pas de prendre ma place ? » demanda-t-il. « Bon Dieu !» dit Lenehan vivement. « Je ne veux pas que tu me la présentes. Tout ce que je veux, c'est la reluquer. Je ne vais pas la manger. »« Oh, la reluquer !» dit Corley, plus aimable. « Eh bien, voilà. Je vais aller lui parler, et toi, tu vas passer devant nous. »« D'accord, » dit Lenehan. Corley avait déjà passé une jambe par-dessus les chaînes quand Lenehan le rappela. « Et après, où est-ce qu'on se retrouve ?»« 10h30, » dit Corley, en finissant d'enjamber.
« Où ?»«
Au coin de Marion Street. On sera sur le retour. »« Ça marche, » dit Lenehan, en guise d'adieu. Corley ne répondit pas. Il flâna sur la route, en balançant sa tête d'un côté et de l'autre. Sa masse corporelle, son pas tranquille et le bruit solide de ses bottes avaient quelque chose de conquérant. Il s'approcha de la jeune femme et, sans la saluer, commença immédiatement la conversation avec elle. Elle balançait son ombrelle de manière accélérée et faisait des demi-tours sur ses talons. Une fois ou deux, quand il lui parla de très près, elle éclata de rire et renversa la tête. Lenehan les observa pendant quelques minutes. Puis il marcha rapidement derrière les chaînes, à quelque distance, et traversa la route de manière oblique. Comme il s'approchait du coin de Hume Street, il trouva que l'air était lourdement parfumé et il jeta un coup d'œil rapide et scrutateur sur l'apparence de la jeune femme. Elle portait ses vêtements du dimanche. Sa jupe de serge bleue était retenue à la taille par une ceinture de cuir noir. La grosse boucle d'argent de sa ceinture paraissait comprimer le centre de son corps et retenait l'étoffe légère de son chemisier comme une agrafe. Elle portait une courte veste noire avec des boutons de nacre et un boa noir effiloché. Les bouts de son col de tulle avaient été savamment froissés et un gros bouquet de fleurs rouges était accroché aux broderies de son corsage. Les yeux de Lenehan apprécièrent son petit corps musclé et solide. Son visage brillait d'une bonne santé insolente depuis ses grosses joues rouges jusqu'à ses yeux bleus audacieux. Ses traits étaient grossiers. Elle avait les narines larges, une bouche étirée qui demeurait ouverte, avec un air vicieux, sur deux incisives saillantes. En passant, Lenehan se découvrit, et après environ 10 secondes, Corley rendit son salut dans le vide. Ce qu'il fit en levant une main vague et en changeant pensivement l'angle de son chapeau. Lenehan alla jusqu'à l'hôtel Shelbourne, où il fit halte et attendit. Après un moment, il les vit avancer dans sa direction, et quand ils tournèrent à droite, il les suivit à pas feutrés dans ses chaussures blanches, enlongeant Marion Square. Comme il marchait lentement, en calant ses pas dans les leurs, il regardait la tête de Corley qui se tournait sans cesse vers celle de la jeune femme, comme une grosse balle attachée par un fil qui revient toujours vers son pivot. Il suivit le couple des yeux jusqu'à ce qu'il le vit monter dans le tram de Donnybrook, puis il fit demi-tour et revint sur ses pas. Maintenant qu'il était seul, son visage paraissait plus vieux. Sa gaieté l'avait abandonné, et tandis qu'il longeait les balustrades de Duke's Lane, il laissa sa main courir sur la rampe. Cet air que le harpiste avait joué commença à contrôler ses mouvements. Ses pieds, souplement chaussés, battaient la mélodie, tandis que ses doigts effectuaient paresseusement des variations et des gammes après chaque accord. Il marcha nonchalamment le long de Stephen Green, puis redescendit Grafton Street. Bien que ses yeux saisissent au vol de nombreux détails de la foule qu'il traversait, il le faisait sans joie. Il trouvait vulgaire tout ce qui était fait pour le charmer et ne répondait pas aux regards qui l'invitaient à être audacieux. Il savait que leur répondre l'obligerait à parler beaucoup pour se montrer inventif et amusant, et son cerveau comme sa gorge était trop sec pour une telle tâche. Le problème de la façon dont il pourrait passer les heures avant de retrouver Corley le taraudait un peu. Il n'arrivait pas à trouver d'autre idée que de marcher. Il tourna à gauche, au coin de Rutland Square, et se sentit mieux dans la rue sombre et calme. Son côté sinistre s'éveillait à son humeur. Il s'arrêta enfin devant la fenêtre d'une boutique miteuse qui affichait une enseigne portant en lettres blanches « Bar, rafraîchissement ». Sur la vitre de la fenêtre, il y avait deux pancartes. « Ginger Beer » et « Ginger Ale ». Un jambon coupé était exposé sur un grand plat bleu, à côté d'une assiette contenant une portion d'un maigre pudding. Il lorgna cette nourriture avec passion pendant un moment, puis, après un bref regard là d'un côté et de l'autre de la rue, il entra précipitamment dans les shops. Il avait faim parce que, à part des biscuits qu'il avait quémandés à deux curés acariâtres, il n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner. Il s'assit à une table de bois nue, en face de deux travailleuses et d'un mécanicien. Une serveuse dépenaillée s'occupait de lui. « Combien pour un plat de petits pois » demanda-t-il. « 1,50 $, monsieur, » dit la fille. « Apporte-moi un plat de petits pois, » dit-il, « et une bouteille de bière au gingembre. » Il parlait avec rudesse dans le but de camoufler sa bonne éducation, car son entrée avait été suivie par un blanc dans les conversations. Son visage était échauffé. Pour apparaître naturel, il mit sa casquette en arrière et planta ses coudes sur la table. Le mécanicien et les deux ouvrières l'examinèrent de pied en cap avant de revenir à leur conversation avec une voix contenue. La fille lui apporta un plat de petits pois en boîte, chaud, assaisonné avec du poivre et du vinaigre, accompagné d'une fourchette et de son verre de bière. Il mangea goulûment sa nourriture et trouva ça tellement bon qu'il prit note mentalement de cette adresse. Quand il eut mangé tous ses petits pois, il siffla sa bière au gingembre et resta quelques moments à repenser à l'aventure de Corlie. Dans son imagination, il voyait le couple d'amoureux marchant le long d'une route noire. Il entendait la voix de Corlie débiter des galanteries insistantes et revoyait l'air vicieux sur la bouche de la jeune femme. Cette vision lui fit ressentir intensément l'état déplorable de sa bourse et de son moral. Il était fatigué de taper à toutes les portes, de tirer le diable par la queue, des petits boulots et des combines. Il aurait 31 ans en novembre. Est-ce qu'il aurait jamais un vrai travail, une maison à lui? Il imagina comme ça serait agréable d'avoir un bon feu près duquel s'asseoir et un bon repas devant lequel s'attabler. Il avait suffisamment arpenté les rues avec des amis ou des filles. Il savait de quoi ses amis étaient capables. Il connaissait les filles aussi. L'expérience avait rendu son cœur amer, l'avait aigri contre le monde. Mais tout espoir ne l'avait pas quitté. Il se sentit mieux après avoir mangé, moins fatigué de sa vie, moins vaincu. Il était peut-être encore possible qu'il s'installe dans un coin douillet et qu'il vive heureux, si seulement il pouvait tomber sur une bonne fille pas compliquée, qui aurait un peu d'argent de côté. Il paya 2,50 $ à la fille dépenaillée et sortit de la boutique pour reprendre son errance. Il prit Capel Street et longea le City Hall, puis il tourna à Dame Street. À l'angle de George Street, il rencontra deux de ses amis et s'arrêta pour bavarder avec eux. Ses amis lui demandèrent s'il avait vu Corlie et ce qu'il y avait de neuf. Il répondit qu'il avait passé la journée avec Corlie. Ses amis parlaient peu. Il regardait d'un œil vide des silhouettes dans la foule et parfois risquait une remarque critique. L'un d'eux dit qu'il avait vu Mac la veille au soir à Egan's. Le jeune homme qui avait vu Mac rue Westmoreland demanda si c'était vrai que Mac avait gagné gros à un pari sur un match de billard. Lenehan ne savait pas. Il dit que Holohan leur avait payé une tournée à Egan's. Il quitta ses amis à 10h15 et remonta George Street. Il tourna à gauche au City Markets et marcha jusqu'à Grafton Street. La foule de jeunes filles et de jeunes gens avait diminué, et sur le chemin, il entendit beaucoup de groupes et de couples qui se séparaient en se souhaitant la bonne nuit. Il alla jusqu'à l'horloge du collège des chirurgiens. Elle sonnait 10 heures. Il partit vivement, le long du côté nord du Green, allongeant le pas de peur que Corlie ne revînt trop tôt. Quand il atteignit le coin de Marion Street, il se posta dans l'ombre d'un lampadaire et prit une des cigarettes qu'il avait en réserve et l'alluma. Il s'adossa au réverbère et garda ses yeux fixés sur l'endroit dont il s'attendait à voir surgir Corlie et la jeune femme. Son esprit s'emballa à nouveau. Il se demanda si Corlie avait réussi. Il se demanda s'il lui avait déjà demandé ou s'il gardait ça pour la fin. Il souffrait par procuration de tous les serrements de cœur et les frissons de son ami, comme s'il s'était trouvé lui-même dans cette situation. Mais le souvenir de la tête de Corlie revenant lentement vers son pivot le calma d'une certaine manière. Il était sûr que Corley s'en tirerait. Tout à coup, l'idée lui vint que peut-être Corley l'avait raccompagnée chez elle, par un autre chemin, et lui avait posé un lapin. Ses yeux scrutèrent la rue. Il n'y avait aucun signe d'eux. Pourtant, il y avait bien une demi-heure qu'il avait vu l'horloge au collège des chirurgiens. Est-ce que Corley lui ferait un coup pareil ? Il alluma sa dernière cigarette et commença à fumer nerveusement. Il forçait ses yeux sur chaque tram qui s'arrêtait de l'autre côté du square. Il devait être rentré par un autre chemin. Le papier de sa cigarette se brisa et il la jeta sur la route en maugréant. Soudain, il les vit arriver dans sa direction. Il les observa, ravi, et toujours adossé contre le réverbère, il essaya de déchiffrer le résultat dans leur manière de marcher. Il marchait rapidement, la jeune femme à petits pas rapides, tandis que Corley se maintenait à sa hauteur avec ses grandes foulées. Il ne paraissait pas parler. Une intuition du résultat le piqua comme la pointe d'un instrument pointu. Il savait que Corley allait échouer. Il savait que c'était infaisable. Ils tournèrent pour prendre Bagot Street et il les suivit tout de suite, se glissant dans leurs pas. Quand ils s'arrêtaient aussi. Ils parlèrent pendant un petit moment et la jeune femme s'engagea dans les marches qui menaient à une maison. Corley resta debout, au bout du chemin, à quelque distance des marches du perron. Quelques minutes passèrent, puis la porte du hall s'ouvrit, lentement et précautionneusement. Une femme déboula les marches et toussa. Corley se tourna vers elle et la rejoignit. Sa silhouette large la cacha à la vue de l'aînée Anne pendant quelques secondes, et puis elle réapparut dans l'escalier où elle se hâtait. La porte se referma sur elle, et Corley se mit vivement en marche en direction de Stephen's Green. L'aînée Anne se hâta dans la même direction. Quelques gouttes de pluie fine tombaient. Il les prit pour un avertissement, et, se retournant vers la maison où la jeune femme était entrée, pour vérifier que personne ne l'observait, il se mit à courir pour traverser la rue. L'anxiété et la course le firent halter. Il appela « Hey, Corley !» Corley tourna la tête pour voir qui l'appelait, et puis continua sa marche. L'aînée Anne lui courut après, tout en ajustant l'imperméable sur ses épaules avec une main. « Hey, Corley !» cria-t-il une nouvelle fois. Il arriva au niveau de son ami et le dévisagea. Mais on ne pouvait rien voir sur ce visage. « Alors ?» demanda-t-il. « Tu as réussi ?» Ils avaient atteint le coin de Ely Place. Toujours sans répondre, Corley pivota à gauche et prit la rue latérale. Ses traits affichaient un calme olympien. L'aînée Anne se maintint à sa hauteur, essoufflée. Il était déconcerté et une note de menace perça dans sa voix. « Tu ne veux pas répondre, » dit-il. « Tu l'as mise à l'épreuve ?» Corley s'arrêta au premier lampadaire et regarda sinistrement devant lui. Puis, avec un geste grave, il étendit une main dans la lumière et, en souriant, il l'ouvrit lentement sous les yeux de son disciple. Une petite pièce d'or brillait dans sa paume.